Interview.
2 jours.
Avec Muriel Cravatte, réalisatrice du film Mothership, merci déjà de m'accorder ce temps aujourd'hui.
Bien, merci de m'avoir invité.
Et bienvenue devant ces micros. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà ?
On peut carrément se tutoyer avec grand plaisir.
Trop bien, c'est beaucoup plus simple pour moi. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire une petite présentation de toi et puis une petite bio, un petit parcours, on va dire ?
Ouais, alors moi je suis belge et française. J'ai fait une école de cinéma et après j'ai réalisé des films et j'ai travaillé comme chef opératrice. J'ai aussi été musicienne et depuis quelques années, je me suis plus concentrée sur le documentaire. J'ai réalisé 2 longs métrages documentaires, dont Mothership, celui qui est présenté aujourd'hui à Die.
Très simplement, pourquoi ce sujet ?
Pourquoi ce sujet ? Parce que je crois qu'une des missions du documentaire, en tout cas de celui que moi j'ai envie de faire, c'est de montrer, de faire voir l'invisible. Et donc la question des migrations est souvent invisibilisée ou en tout cas camouflée derrière des chiffres tronqués. Et donc il y a l'envie vraiment avant tout de rendre à voir l'invisible. Voilà.
C'était un sujet que tu avais déjà abordé avant ou tu avais déjà travaillé avec d'autres personnes ?
En fait, j'ai tourné mon premier long métrage documentaire à Briançon, à la frontière franco-italienne. Donc je documentais la façon dont les exilés tentent de traverser la frontière, se font refouler par les autorités, la façon dont du coup les exilés prennent des chemins de montagne dangereux, et puis comment les personnes qui leur viennent en aide se font harceler administrativement et puis au niveau judiciaire. Donc ça a été le premier long métrage documentaire que j'ai tourné en 2018-2019. Et je dirais que là, pour ce film à Briançon, j'ai vraiment été percutée personnellement par ce qui se passait là-bas, puisque moi j'ai grandi en région parisienne, mais je fais beaucoup de montagnes. Et donc mon paradis de cœur, c'était un peu le Briançonnais. Et quand j'ai appris que pour les personnes en exil qui tentaient de venir en France, en fait, mon paradis de cœur pouvait être vécu comme un enfer, j'ai eu envie, besoin d'aller voir sur place comment ça se passait. Donc je suis d'abord allée comme bénévole et puis ensuite j'ai eu envie de documenter parce que je trouvais que ce qui était présenté dans les médias, on en parlait beaucoup dans les médias à cette époque-là, mais tout était un peu dans le registre du sensationnel, pas dans le documentaire avec un vrai temps pris pour comprendre ce qui se passait. Et donc c'est comme ça que j'ai sorti ma caméra là-bas et que de proche en proche un film a émergé. C'était pas forcément une certitude au départ que j'allais faire un film. C'est un film qui a été autoproduit et donc voilà, ça s'est fait de proche en proche. Et je dirais que une fois qu'on tire ce fil, comment dire, de ce qui se passe, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a percuté au-delà de la situation de ces personnes, c'est aussi la question du droit, c'est-à-dire qu'à la frontière franco-italienne, l'État ne respecte pas le droit. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est de dénoncer en fait cette façon dont les États, dans l'occurrence en Méditerranée pour le film que je présente aujourd'hui, c'est la façon dont l'Union européenne se met hors la loi. Et donc ça, c'est des sujets qui me paraissent très importants à documenter pour faire savoir à ma petite mesure ce qui se passe. Enfin voilà. Et puis aussi comme travail de mémoire, je pense que c'est très important.
Et le lien avec Mothership et ton premier documentaire, c'est d'aller avant ?
Ouais, il y a une logique d'aller avant. C'est ce qui précède en fait dans le trajet de ces personnes, dans leur voyage. Après, il y a eu un événement déclencheur, on va dire. C'est-à-dire que quand j'étais au refuge solidaire à Briançon, un jour est arrivée une jeune femme avec son bébé. Et un bébé de quelques mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a raconté, donc elle est arrivée après avoir traversé la frontière franco-italienne dans des conditions difficiles. Elle est arrivée et elle a raconté que son bébé était né sur une embarcation de fortune comme celle qu'on voit dans Mothership. Donc pleine mer avec plein de personnes paniquées, entassées sur une embarcation impropre à la navigation. Le bébé était né comme ça et puis le bateau d'SOS Méditerranée les a secourus. Et donc l'a secouru elle et son bébé et le cordon ombilical avait été coupé sur le bateau d'SOS Méditerranée. Et ensuite cette femme et son bébé ont été débarqués en Italie et puis ils ont suivi un parcours chaotique de plusieurs mois. Et voilà, et elle était arrivée au refuge solidaire comme ça. Et moi, j'ai tenu ce bébé dans mes bras et il était à la fois... C'est un bébé comme tous les bébés, enfin comme beaucoup de bébés, calme, avec des grands yeux qui regardaient autour de lui. Et à la fois, j'ai trouvé ça complètement vertigineux d'imaginer l'histoire qui était déjà inscrite en lui. Donc voilà, ça c'est un peu un déclencheur affectif. Après, il y a d'autres déclencheurs plus réfléchis et des raisons qui ont fait que je me suis effectivement tournée vers ce sujet-là.
Quelles ont été les barrières ou les pressions ou les complications qui ont pu venir entre l'idée et la réalisation?
Alors il y a eu des barrières banales ou qu'on a tous rencontrées, comme le Covid qui a retardé le tournage. Pour moi c'était vraiment hyper important d'embarquer à bord à un moment où les personnes n'étaient pas dans des tenues de scaphandriers, où il y avait une certaine visibilité quand même des visages. Donc là, dans le film, on n'est pas si longtemps que ça après le Covid. Donc il y a encore des masques, mais pas tout le temps. Ce qui fait qu'on a quand même bien présent les visages, les expressions et tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est très important en fait, de montrer des voix et des visages. Je ne veux pas filmer des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées, donc je ne veux pas flouter des visages. Donc si c'est pour se retrouver avec des masques ou des tenues de scaphandriers pour les humanitaires, ça m'intéressait pas. Donc voilà, il y a eu cette barrière-là, la barrière du Covid. Ensuite, il y a eu la difficulté à monter financièrement le projet, mais je dirais qu'on a été assez vite suivi par France Télé, mais au niveau régional, ce qui a été une première marche, en fait. C'est ce qu'on appelle un premier diffuseur qui permet... Et puis après, on a eu Public Sénat et la RTBF, donc... C'est un film qui s'est relativement bien financé pour un sujet assez sensible. Les plus grosses chaînes nous ont dit non, on a déjà traité le sujet, comme souvent. Il y a souvent un amalgame entre une thématique et un sujet. Donc ils vont vous dire qu'ils ont déjà fait un film sur, je ne sais pas moi, par exemple, un exilé afghan qui habite au Danemark et que pour cette raison-là, en fait, le sujet migration est déjà traité. Donc, ils ne vont pas s'engager sur un film en Méditerranée. Donc, voilà, les portes sont quand même fermées, mais on a eu de la chance. On a pu mettre le pied dans une petite porte et ça nous a permis de financer le film. Voilà, après, il y a eu d'autres, on va dire, des difficultés éditoriales relativement... Peu, enfin j'ai pu faire vraiment le film que je voulais, donc il existe en deux versions, une version de 55 minutes et une version d'1h20. Il y a quand même eu des diffuseurs qui sont opposés à ce que j'écrive. Je voulais mettre un carton de contexte au début pour raconter la collusion de l'Union européenne avec les gardes-côtes libyens, et donc finalement c'est la façon dont l'Union européenne se met hors la loi, et donc ça m'a été interdit. Donc de ce point de vue là il y a quand même eu une forme de censure de certains diffuseurs et partenaires du film, comme c'est dit quand même dans le film. J'ai accepté, mais je l'ai à vrai dire pas très bien pris, et je pense que c'est un sujet auquel il faudrait donner de la visibilité, cette histoire de collusion entre l'Union européenne et la Libye.
Aucune pression politique? Ils n'aiment pas trop qu'on mette le nez
cette
histoire justement de non-respect de loi?
Non, pas trop de pression politique. En fait, il y a des diffuseurs qui n'ont pas voulu que je mette ce carton-là. Et pour moi, ça relève plus de l'autocensure que de la pression politique. Et donc, tant que ça passait dans le film par le biais de certains personnages, c'était possible de le dire parce que potentiellement, la parole de, je mets 12 guillemets, militants. Mais quand après j'ai voulu le mettre d'une façon beaucoup plus factuelle au début du film, en étayant mon propos avec des études, des articles, enfin, qui émanaient pas du tout d'organes militants, mais d'institutions, là j'ai eu une fin de non-recevoir. Donc il y a quand même une frilosité et puis un fil à trouver pour pouvoir parler de ces sujets en prêchant dans une chapelle pas trop petite, quoi.
Et on va parler maintenant de ce bateau qui t'a accueilli, donc c'est deux mois.
Ouais, j'ai passé 2 mois à bord et puis 3 semaines avec un petit avion humanitaire.
Alors, ce bateau, déjà, comment on le présente à nos auditeurs?
Le bateau, c'est quand même... c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est... Je sais pas comment dire... la situation qui se passe en Méditerranée est très tragique. C'est un drame humanitaire qui se joue quotidiennement. Mais ce bateau... En soi, il est porteur aussi d'un imaginaire incroyable d'aventure, au sens peut-être noble du terme. Et moi, c'était très particulier parce que d'habitude, quand on fait un documentaire, on fait des repérages, on peut aller voir les lieux, on sait qui on va filmer. Moi, j'ai posé mon pied sur le bateau au début du tournage. J'avais jamais été dessus avant. C'était pas possible de faire des repérages, même à quai. À cause du Covid et tout ça, ça avait rendu difficile. Les protocoles étaient très complexes. Donc, je suis arrivée sur le bateau et c'était le début du tournage. C'est un bateau, c'est assez fascinant. C'est comme dans Tintin. C'est vraiment un vieux bateau. Enfin, donc, il y a tout cet imaginaire aussi qui a ramené. Et en même temps, c'est vertigineux parce qu'on arrive sur le bateau, il est vide et se dire qu'il va être... qui va se remplir en fait avec des personnes qu'on va recueillir, c'est assez vertigineux.
Comment ça s'organise la vie à bord?
Ça s'organise donc d'abord très simplement quand on est entre nous. Je dirais que quand on arrive, quand on est comme moi, on fait pas partie de l'équipe, on est un média extérieur comme ils nous appellent. On fait quand même partie du quotidien de l'équipe et donc on suit les entraînements au sauvetage parce que si jamais c'est un sauvetage compliqué où il y a beaucoup de monde, on doit être amené, nous médias extérieurs, à pouvoir faire les premiers gestes. Donc on se trouve à apprendre à faire du massage cardiaque, sur une poupée de bébé, enfin des trucs aussi hyper vertigineux, quoi, assez incroyable. Et puis c'est une vie collective, enfin on dort dans des cabines où on est 5, enfin voilà, donc c'est un espèce de saut dans un grand bain quand même.
Quels sont les profils des gens qui sont sur ce bateau, qui forment l'équipage?
Ouais, ceux qui forment l'équipage, alors il faut distinguer plusieurs choses. Ce bateau, il est loué à l'ONG SOS Méditerranée, donc l'ONG est pas propriétaire du bateau. Le bateau est loué avec un équipage qui est constitué essentiellement de personnes qui viennent des Philippines. Et donc, dans ce personnel-là, il y a les cuisiniers, capitaines, second du capitaine, des ingénieurs en entretien, etc., en maintenance. Et eux, donc, ils sont un peu en retrait par rapport au film et ils sont un peu en retrait aussi par rapport au contact direct avec les personnes, avec les rescapés. Et ensuite, il y a toute l'équipe... SOS Méditerranée, et puis il y a quelques personnes aussi qui viennent par la Croix-Rouge internationale, et ce sont tous des professionnels. Les marins sont des marins mais qui ont suivi des formations spécifiques pour le sauvetage en mer, et puis on a aussi des humanitaires soignants et des humanitaires qui sont là pour l'accueil spécifique des personnes à bord.
Combien ce bateau recueille de personnes?
Depuis le début des opérations, SOS Méditerranée c'est un peu sinistre comme fête, célèbre plutôt, ses 10 années d'existence, là, cette année. Ça veut dire que depuis 10 ans, il y a un besoin incessant de sauvetage en mer. Et encore une fois, c'est du ressort des États de faire le sauvetage en mer. Donc c'est vraiment pour pallier à un manque patent de sauvetage de la part des autorités. Et donc le bateau a secouru du 26 février 2016 à fin 2024. Il y a eu 41 483 personnes secourues par SOS Méditerranée. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de bateaux humanitaires qui patrouillent en Méditerranée. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sauvetage. Il faut savoir que cette route migratoire est la plus mortelle au monde. La route de la Méditerranée centrale. Et c'est aux portes de l'Europe.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Ton angle pour ce documentaire, c'est de suivre aussi les femmes qui sont réfugiées et secourues.
Oui.
Est-ce qu'il y a une proportion, on saurait dire, tant d'hommes ou tant de femmes?
Ouais, alors, il y a un truc qui est très important, un chiffre important à retenir, c'est que à échelle du monde, 50% des migrants sont des migrantes. Donc voilà, il y a autant de femmes qui migrent que d'hommes. Donc ça, c'est un chiffre très important parce qu'on a longtemps minimisé la présence des femmes dans les migrations. On les voyait plutôt soit comme des Pénélopes sédentaires qui attendent le retour de leurs hommes au pays ou soit comme des suiveuses. Il y a une chercheuse qui s'appelle Camille Schmoll qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée » et qui disait donc ouais, longtemps les femmes ont été absentes du grand récit des migrations. Bah, c'est encore donner de la visibilité aux invisibles. Et donc sur l'Ocean Viking, sur le bateau d'SOS Méditerranée, il y a entre 15 et 20% des personnes secourues qui sont des femmes.
Et quand on les recueille sur le bateau, ces femmes,
ouais,
elles doivent avoir une attention un peu particulière parce qu'elles sont encore plus visées dans leur parcours au niveau des violences.
Oui, tout à fait. Les femmes, elles ont, au niveau des violences systémiques et notamment des violences sexuelles, elles sont plus exposées que les hommes, même si les hommes sont aussi exposés à des violences sexuelles, et notamment en Libye. Mais elles ont une fragilité et elles voyagent souvent avec des enfants parfois très jeunes, des enfants parfois nés suite à des viols, donc des histoires super compliquées, super douloureuses. Et à bord de l'Ocean Viking, il y a un lieu qui s'appelle le Women's Shelter, qui est réservé exclusivement aux femmes et aux enfants. Et dans ce lieu, aucun homme ne peut entrer, qu'il fasse partie de l'équipage ou qu'il fasse partie des rescapés. Donc c'est un lieu où finalement les femmes peuvent, pour certaines, parfois dormir avec les deux yeux fermés, ce qu'elles n'ont pas pu faire depuis des mois, voire des années. Voilà, donc c'est vraiment un lieu d'attention, de soins. La sage-femme que j'ai beaucoup suivie dans le film est là pour ces femmes et pour ces enfants et pour leur permettre de retrouver un peu de dignité pendant quelques jours, les quelques jours que dure la traversée.
Comment raconter tout ça? Comment on le travaille, cette matière? On l'a. Oui, comment le raconter?
Alors moi, je suis vraiment d'une tradition de cinéma direct. Je filme des situations au maximum. Je fais le minimum d'interviews. Enfin, au départ, je ne voulais pas en faire du tout. Il n'y a pas de commentaires dans le film. Et donc, c'est les situations qui racontent ce qui se passe et la juxtaposition des situations les unes après les autres qui font que le film prend un sens. Donc ici, il y avait une sorte d'évidence qui est de suivre le fil d'une rotation du bateau, c'est-à-dire du bateau vide au bateau plein, puis jusqu'au port de débarquement. Donc ça, c'était un fil chronologique. Et dans ce fil chronologique, on a essayé d'insérer des thèmes pour aborder un peu toutes les questions qu'on rencontre. Donc il va y avoir la question des femmes, la question des violences subies, la question des enfants, la question de la Libye, etc. Et donc ça donne ce qu'on pourrait appeler un récit chronothématique. Donc voilà, ça c'est la façon d'organiser le récit. Et moi, j'espérais recueillir des témoignages de femmes, de leur parcours, dans des échanges entre elles et la sage-femme. Mais la sage-femme que j'ai filmée, qui est vraiment un personnage important, et, enfin, que moi je trouve très très attachant, mais elle est japonaise et elle n'est pas du tout portée sur la parole. Donc il n'y avait pas vraiment de parole libérée pour avoir accès au récit des trajectoires de ces femmes. Et donc j'ai eu recours quand même à quelques interviews face caméra pour pouvoir préciser un petit peu certains points qui n'étaient pas palpable dans le collectif, en fait, quand je filmais dans le collectif.
Gagner la confiance de tous ces gens, comment on fait avec une caméra pointée sur eux, en fait?
On y va d'abord sans caméra. Et ce qui est particulier, c'est que les femmes, elles ne viennent pas vers la caméra, en fait. Quand il y a eu un sauvetage, par exemple, on va dire on a sauvé 60 personnes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Les enfants et les hommes, il y en a qui vont venir vers vous directement et qui vont dire « moi, je veux témoigner, j'ai des trucs à dire, viens me filmer, etc. » Les femmes, pour se protéger, en fait, dans le parcours migratoire, elles s'auto-invisibilisent, elles rasent les murs. Et donc elles ne vont pas venir vers vous, vous chercher. Et du coup, il y a tout un travail à faire pour aller à leur rencontre, pour leur expliquer la démarche. Et pour dire « voilà, en fait, moi, je suis là pour ça ». Et si parmi vous, il y en a qui ont envie d'être filmés, allons-y. Et s'il y en a qui ne veulent pas, il y a zéro problème. Et s'il y en a qui veulent aujourd'hui et pas demain, c'est zéro problème. Et l'inverse aussi. Et finalement, c'est réussir à instaurer une relation de confiance et pour être plus dans quelque chose qui relève de l'échange et de l'humain et pas de la, ce qu'on appelle la prise de vue où on prend une vue. Et donc voilà, moi j'essaye de lutter contre ça en fait, contre la prise de vue où il y a la notion de prendre et j'aimerais mieux qu'on arrive à être dans l'échange. Donc moi, ma caméra, elle est très grosse. C'est jamais des images volées. Je suis sous le nez des personnes, elles me voient. Et donc, quand elles n'ont pas l'air de me voir, c'est parce qu'elles ont conscience que je suis là et qu'elles sont OK pour que je filme ce que je suis en train de filmer. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se met en place. Et parfois, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, en fait, ce n'est pas dans le film.
Comment on ressort de 2 mois en mer après ?
On ressort pas tout à fait pareil qu'avant. Mais en même temps... On sait qu'on y va pour avec une mission, enfin un but précis, et donc on se doit par rapport à ce qu'on veut défendre, aux valeurs qu'on veut défendre, on se doit d'y arriver, d'aller au bout. Et donc il y a quelque part une espèce d'hyper concentration, hyper acuité, avec un focus très 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 précis qui fait que on peut parfois se sentir un petit peu insensible, mais en fait, c'est parce qu'on se protège pour pouvoir mener à bien cette mission. Donc, c'est vrai qu'après, il y a un peu de décompensation. Quand on retourne à la maison, il peut y avoir de la décompensation, des trucs un peu curieux qui se passent. Et puis, une colère surtout qui reste intacte et qu'il faut réussir, je pense, à entretenir pour l'envoyer au bon endroit pour la suite.
Et maintenant ? La suite, c'est quoi ?
Moi, je suis retournée sur le bateau un an après. Plus qu'un an après. Je suis retournée il y a un an pour SOS Méditerranée, pour faire des vidéos et des photos pour leurs réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Encore une fois, il faut mettre des guillemets parce que on n'est pas là pour que ça plaise. Enfin, on est là pareil parce qu'on a besoin en fait de participer à ça. Mais c'était encore une expérience très forte et j'espère pouvoir y retourner. Puis je continue à avoir des projets en lien avec des questions que je pense importantes de rendre visibles.
Je t'ai parlé tout à l'heure de pression politique en amont. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques après ?
Alors, pas beaucoup. Mais quand même, c'était assez intéressant. Le film a été vu par deux élus. Une élue qui était au Parlement européen et qui était marin, donc qui avait soi-disant une sensibilité aux questions de la mer, mais qui était plutôt macroniste. Et puis j'ai eu la chance aussi de le montrer à une ancienne ministre de la Justice, une personne de gauche. Et les deux, en fait, ça m'a beaucoup étonnée, mais les deux sont tombées de leur chaise quand elles ont vu en fait la réalité. Elles ont été rattrapées par un principe de réalité. Les deux ont dit « mais je ne savais pas, je n'imaginais pas que c'était ça ». Et pourtant, on en parle tout le temps. Et donc, on a essayé l'ancienne ministre, on a essayé d'organiser une projection à l'Assemblée nationale. Mais comme on sait, il y a eu un peu de mouvement ces temps-ci à l'Assemblée. Donc, ça n'a pas abouti. Voilà. On a essayé un peu au Parlement européen aussi, mais c'était au moment des élections. Et donc voilà, il n'y a pas eu de projection. Mais ce serait bien que ce soit vu. Une des intentions en faisant ce film, c'est d'opposer un principe de réalité aux fictions qui sont fabriquées par des personnes hors sol, par une pensée dominante. Et donc, si ces personnes hors sol, peuvent voir le film, je pense que ça peut être bénéfique. C'est une toute petite pierre à l'édifice, mais c'est un petit élément peut-être qui peut déclencher quelque chose à un petit endroit dans la tête de quelques personnes. Et allez, on peut garder l'espoir.
Ici, on est dans un cinéma. Est-ce que ce film est projeté avec des scolaires ou
J'aime beaucoup qu'il soit projeté avec des scolaires. Il y en a eu quelques-unes. Et notamment, enfin, je trouve qu'au collège, ils sont peut-être un peu jeunes, mais les lycéens sont un public idéal et très intéressant parce que vous soyez avec un public de lycéens de milieux favorisés ou défavorisés, c'est une classe. Et donc, dans cette classe, il y en a qui sont sensibles au sujet et peut-être acquis à la cause et d'autres qui vont être défiants. Et Et donc, c'est hyper précieux d'avoir l'opportunité de montrer comme ça le film à des publics. Finalement, c'est un public varié, plus que quand ce sont des projections débat où la plupart des spectateurs viennent parce qu'ils ont déjà une sensibilité vis-à-vis du sujet. Même si, voilà, je pense que c'est important parce que les spectateurs, les spectatrices qui viennent découvrent aussi des choses qu'ils ne connaissaient pas et puis que ça peut essaimer autour d'eux, autour d'elles, pour faire un peu aller évoluer les mentalités. Je suis très modeste quand je dis ça, hein. J'ai pas des grands, grands espoirs, mais voilà, c'est chacun, chacune, je pense qu'on peut faire un petit peu quand même.
Tes projets futurs ?
Ben je continue. Alors moi, j'ai plusieurs casquettes, donc je suis aussi directrice de la photo. Et en ce moment, ben le film tourne beaucoup. C'est un film qui n'a pas de sortie salle prévue, qui n'en aura probablement pas, parce que pour des questions administratives de financement, c'est un financement télé. Donc il tourne par contre beaucoup, beaucoup en projection débat. J'accompagne beaucoup de projections, donc ça me prend pas mal de temps. Et donc ça, je fais ça et en parallèle, mon travail de directrice de la photo, c'est-à-dire je vais filmer pour d'autres réalisateurs, réalisatrices. Et en même temps, bah, ça me laisse le temps voilà, ça me permet de laisser infuser des nouveaux projets. C'est vrai que j'en ai un que je tourne dans ma tête. Je sais pas encore quelle forme il prendra ni s'il aboutira, mais sur la question de la collusion entre l'Union européenne et les gardes-côtes libyens.
Où est-ce qu'on te retrouve ? T'as des réseaux, un site internet ?
Oui, tout à fait. Alors, toutes les projections, elles sont annoncées sur Instagram et Facebook. Muriel Cravatte, tout simplement. Donc, mon prénom, mon nom. J'annonce toutes les projections. Je précise aussi que si des associations, des personnes, des collèges, plutôt des lycées, des établissements ou des facs veulent organiser des projections, il suffit de me contacter. C'est moi qui me charge du suivi et de l'organisation des projections. Donc, il suffit de me contacter en message plutôt sur Instagram ou alors sur mon site internet. J'ai aussi un site internet et donc là il y a une interface pour pouvoir m'envoyer des messages et voilà, c'est comme ça que le film vit et j'ai de la chance parce qu'il tourne beaucoup. SOS Méditerranée aussi apporte pas mal de projections et donc c'est chouette parce qu'il y a eu des diffusions télé et du coup il y a aussi une belle vie en festival et en projection débat.
Juste avant de finir, je te propose une parole libre, sans question, sans rien.
Eh bien, je dirais, ne baissons pas les bras, même si on peut en avoir envie. Les temps sont durs, mais voilà, si on a du temps, on peut le donner, il y a plein de choses à faire. Si on a de l'argent, il y a plein de causes à défendre. Si on n'a pas de temps et pas d'argent, on peut parler autour de soi pour dire, redire, être attentif et y croire, même si ce n'est pas facile. Voilà, c'est un peu naïf, mais si j'étais pas portée par ça, en fait, je ferais plus de films. Et donc, je pense que c'est... J'ai des enfants, et du coup, puisque j'ai des enfants, j'ai envie quand même de penser qu'au bout du tunnel, il y a une petite lumière, et d'essayer d'entretenir cette lumière, et voilà, à ma mesure, à ma toute petite mesure.
Mon ciel est bleu, le vôtre est bleu, pas le même bleu, c'est mystérieux. Une étincelle, dans votre ciel. Changera-t-il la couleur des cieux? Mon âme est noire. Elles envahissent mon cœur, invisibles douleurs. seul.